Colette Brognard a bien connu Léo Ferré. Il y a peu, elle présentait une conférence à Cahors où elle mettait en parallèle les textes de Léo Ferré et les poètes qui l'ont inspiré. Retour sur cette rencontre où elle nous parle de Léo l'anarchiste, Léo amoureux des femmes, Léo amoureux des mots, Léo amoureux de la vie.
Je t'ai rencontré par hasard, ici, ailleurs, ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes.
Je suis avec Colette Brognard qui va nous parler de Léo Ferré. Et je voulais vous demander déjà comment vous aviez connu Léo Ferré ? À quelle époque aussi vous l'aviez connu ?
Comment je l'ai connu ? Il y a plusieurs étapes. La première fois que j'ai vu chanter sur scène, c'était le 10 mai 68, c'est une date très historique, et il était au gala libertaire à la Mutualité. C'était la nuit des barricades. C'était vraiment extraordinaire de l'entendre cette fois-là, avec l'ambiance qui régnait dans la salle et alentour. Voilà pour la première fois où je l'ai donc vu scéniquement. Ensuite, j'ai fait une étude donc thématique sur son œuvre dans le cadre en fait d'une maîtrise à l'université, dans le cadre d'une licence de lettres modernes. Et quand cette maîtrise a été faite, je lui ai porté. Donc ça devait être à peu près en 72. Et c'était la première maîtrise, le premier travail de Léo Ferré à l'université. Et ça n'avait pas été évident de faire accepter ce travail par un professeur, puisqu'un professeur doit encadrer une maîtrise. Donc je lui ai porté dans les coulisses de l'Olympia, et il m'a remercié très gentiment, et il m'a dit merci, je vous écrirai. Alors évidemment, j'attendais qu'il m'écrive et je regardais la boîte aux lettres qui restait malheureusement vide. Donc au bout de 6 mois ou un an, je ne sais plus exactement, je suis très patiente. Je suis retournée dans les coulisses d'une MJC, je crois, et je lui ai dit « Bonjour, vous vous rappelez, j'avais fait une maîtrise. » « Ah oui, très bien. » Et j'ai dit « Bah alors maintenant, j'ai décidé de faire un doctorat sur votre œuvre et puis sur la chanson peut-être de lutte en même temps. » Il m'a dit « Ah très bien. » Et il m'a dit « Bon, bah écoutez, il devait se sentir un petit peu coupable quand même. » Et parce qu'il était très gentil, hein, Léo Ferré. Hein. Il piquait des grosses colères, mais globalement, il était très gentil, très humble et très attentif aux gens. Alors, il m'a dit « Écoutez, j'enregistre un disque au studio Barclay. Venez assister à l'enregistrement. » Et c'était le disque L'Espoir. Donc, j'ai assisté à cet enregistrement qui était extraordinaire, avec Ivry Guiclis qui est arrivé à un moment, qui a improvisé avec son violon sur la chanson Les Étrangers. C'était très beau. Et peu après cet enregistrement, c'était en janvier 73, peu après, il faisait l'opéra comique. Et l'opéra comique, ça a duré un mois presque. C'était aussi un spectacle très étonnant, parce que très divers. Il y avait aussi bien Virtuose sur scène d'Agachas qui jouait le concerto pour la main gauche de Ravel. Il y avait en même temps Les Ou qui faisaient de la pop musique, Léo qui chantait le mal-aimé, plus ses chansons à lui. Enfin, tout ça faisait quelque chose d'assez hétéroclite, baroque, mais tout à fait fantastique. Ça fascinait complètement le public. En plus, dans ce théâtre, qui est un théâtre à l'ancienne, c'était tout à fait remarquable. Et donc là, je suis allée le suivre plusieurs fois, peut-être pas tous les soirs, mais enfin presque. Et petit à petit, ben, disons qu'une amitié s'est nouée entre nous. Et par la suite, ben, je l'ai accompagné donc, dans des tournées. Parfois, je faisais même les éclairages. Enfin, j'étais au pupitre de lumière. Hein, je poussais le bouton, on m'avait dit d'envoyer de l'ambre, j'envoyais de l'ambre, etc. Et ça m'a permis de voir des spectacles un peu, disons, des coulisses, en quelque sorte. Donc c'est aussi très intéressant. Et c'est à cette occasion que je l'ai suivi en tournée dans le Maghreb, et les photos qui figurent sur mon site datent de cette tournée du Maghreb. On avait donc fait Algérie, Tunisie et Maroc. Ils chantaient absolument les mêmes textes qu'en France. Les amphis étaient pleins de monde, d'hommes, de femmes, d'enfants, de femmes pas voilées, et ils remportaient absolument les mêmes succès qu'en France. Donc c'était tout à fait... c'est étonnant d'en parler maintenant. En fait, à l'époque, ça ne nous étonnait pas. Mais maintenant, ça paraît bizarre. Oui. Puis, donc, à partir de là, moi, disons qu'entre 1974 et 1984, je l'ai vraiment beaucoup suivi. J'allais en Italie aussi, chez lui. Ensuite, j'ai un peu coupé les ponts, parce que moi, je suis écrivain, et j'étais tellement habité par l'œuvre de Léo Ferré que c'est difficile d'écrire dans ces cas-là. Il y a un moment où il faut un peu couper le cordon, ça. C'est comme avec les parents, il faut un peu prendre le large pour retrouver son propre vocabulaire, son propre rythme, voilà. Puis, bon, le showbiz, c'est un milieu difficile quand même, hein. J'aimais pas trop vivre la nuit, j'aimais pas trop cet univers-là.
Lui, il aimait cet univers. l'univers, Léo Ferré ?
Je pense pas qu'il aimait. Enfin, bon, c'était évidemment pour lui une nécessité hein, absolue de travailler, de promouvoir ses disques par la scène et de. Enfin, ce qu'il en dit dans les interviews, hein, il disait qu'il n'avait pas le trac. Ça, j'ai vu ça il y a pas longtemps, ça m'a un petit peu étonné. Mais enfin, qu'il n'avait pas spécialement le trac. Et puis que bah, parfois c'était agréable parce qu'il y avait vraiment une interaction avec la salle, il y avait des bons moments. Mais il semblait pas forcément, à part quand il a dirigé des orchestres, où là il a dit c'est formidable, c'est comme faire 10 000 fois l'amour. Sinon, il avait l'air un petit peu, enfin, quand je l'ai connu, hein, il avait aussi quand même, il est en 74, il était né en 16, donc il montait un petit peu au niveau de l'âge, et c'est très très dur les tournées, c'est vraiment des horaires impossibles, il avait des récitals de 2 heures, voire plus, sans interruption. Après, il allait se ressourcer, créer, écrire. Je pense qu'il n'était pas très mêlé, il faisait pas partie du showbiz de toute façon. Il n'avait rien d'un mondain, il ne fréquentait pas le tout Paris.
Vous qu'il avait connu aussi chez lui, en Italie, ici aussi à Gourdon, parce qu'il avait une maison aussi à Gourdon. Comment il vivait ? Il était entouré par plein de gens ou c'était plus quelqu'un qui avait besoin de vivre un peu dans la solitude ?
Oui, alors en fait, moi je ne l'ai pas connu quand il était à Gourdon, puisqu'à Gourdon, il y a vécu donc de 63 à 68 et que moi je vais le rencontrer après. Je l'ai quand même connu et accompagné à Gourdon parce que sa famille, sa belle famille existait à Gourdon toujours, existe encore d'ailleurs. Et donc il allait de temps en temps à Gourdon après cette rupture qu'il y a eu assez terrible dans le Lot. Mais je ne l'ai pas connu dans ce cadre-là. Bon, par contre, en Italie, ben, j'allais le voir et il avait une vie de famille avec ses enfants, puisqu'à ce moment-là, il avait 3 enfants. Marie, sa 3e femme. Mais en dehors de ça, disons qu'autour de la table, il y avait beaucoup de monde. Mais ensuite, Léo, il partait dans son imprimerie, imprimer des textes, créer des textes, jouer au piano, chercher des musiques, etc. Et il était quand même plutôt un solitaire. De toute façon, la création, c'est une œuvre de solitaire. Hein. Alors après, dans les tournées, bien évidemment, il y avait des gens autour de lui. Il y avait une équipe technique quand même si elle était très réduite. Et puis, il y a un peu bon, une cour, un petit peu. Et donc, ça faisait un peu du monde. Mais ça, c'était des moments. Mais fondamentalement, Léo Ferré, c'est un solitaire. De toute façon, même avec les gens, il est seul. Hein. Si on écoute la chanson La Solitude, hein, la solitude, elle est revendiquée. Elle est de toute façon inévitable. C'est aussi la solitude des créateurs. Et il dit d'ailleurs dans un texte qui s'appelle « Les artistes », qui est relativement récent, ça doit être 86, je pense, où il dit « Les artistes, ils sont parmi vous, mais vous ne les voyez pas, ils sont différents de vous, ils sont d'une autre race, et vous les ignorez depuis des années, quoi. Depuis toujours. » Donc, alors, des fois, il s'en plaignait de ça. Hein. Bon, des fois, il le revendiquait avec un peu de coquetterie, mais il était toujours un peu entre les deux. Quoi. C'était quelqu'un de très, très sensible et très déchiré, ça, c'est une réalité.
Il a été censuré aussi à une époque.
Il a été censuré pour certaines chansons bien précises hein, qui dénonçaient la guerre et la torture, par exemple. C'est le cas de la chanson « Mon Général » qui s'adressait directement à De Gaulle. Et il va plusieurs fois faire des chansons à l'égard de Gaulle très, très violentes. Il avait aussi des chansons par rapport au pape. Il dénonçait la non-intervention pendant la guerre du pape Pie XII. Il a dénoncé également Franco, alors que Franco était toujours au pouvoir. Donc il prenait des risques considérables. Et sa dernière chanson visant des gens de pouvoir et des gens abusant du pouvoir, c'est la chanson en hommage à Allende, c'est le coup d'état de Pinochet au Chili. Il était à ce niveau-là très virulent. Et puis aussi des chansons comme le conditionnel de variété.
Je ne suis qu'un artiste de variété et ne peux rien dire qui ne puisse être dit de variété, car on pourrait me reprocher de parler de choses qui ne me regardent pas. Comme si je vous disais qu'un premier ministre britannique, ou bien papou, ou bien d'ailleurs, pouvait être déclaré incompétent. Comme si je vous disais qu'un ministre de l'Intérieur d'une république lointaine ou plus présente pouvait être une canaille. Comme si je vous disais que les cadences chez Renault sont exténuantes. Comme si je vous disais que les cadences exténuent les ouvriers, jamais les présidents.
et puis des chansons sur mai 68. Dans toutes ces chansons-là, en dehors de la censure officielle, il y avait une censure officieuse qui faisait qu'on passait pas ces textes, ces chansons sur les ondes. Alors il y avait d'abord son engagement politique, mais il n'y avait pas que ça. On considérait que ce qu'il faisait était trop poétique. On le traitait aussi d'intellectuel de la chanson. Et c'est vrai qu'en fait, dès 51, il le met en musique, le mal-aimé, il met les poètes en musique, etc., etc. Donc tout cet aspect déconcertait complètement les journalistes, les gens des médias, à part certains, bien sûr, qui l'appréciaient et le faisaient venir. Mais dans l'ensemble, ils redoutaient un peu ce qu'il dirait, parce qu'il est vrai que là, ils pouvaient prendre des grosses colères et faire quelques esclandres, c'était pas exclu. Alors ça, je pense que ça leur faisait peur. Et puis une censure aussi au niveau des chansons érotiques. Alors quelques-unes sont passées pour des raisons qu'on peut expliquer, mais il y en a qui ne passaient pas du tout. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de censure à son égard. Et c'est sans doute ce qui explique que pour ma part, moi je connaissais pas son œuvre quand j'avais 20 ans, alors que je connaissais parfaitement Brassens, Brel, Ferrat, Barbara, qui passaient sur les ondes, qui passaient à la télé. Et il continue à y avoir une censure actuellement, parce que récemment, par exemple, Ferrat est mort, et ils ont dit « Encore un grand de la chanson qui meurt après Brassens, Brel ». Alors j'attendais qu'ils disent Ferré, ils ne l'ont pas dit. Je suis allé il n'y a pas longtemps voir une exposition, il y a 2 ans, à Paris, sur Aragon et l'art. Et dans un petit salon reconstitué, qui reconstituait le salon d'Aragon et d'Elsa Triolet, on pouvait écouter des chanteurs chantant Aragon. Il y avait donc plusieurs personnes, Marc Augeret, il y avait Ferrat, il y avait Bernard Lavilliers, il n'y avait pas Léo Ferré. C'est quand même extraordinaire, alors que l'affiche rouge, et puis que Lavilliers qui chante effectivement Aragon, c'est sur les musiques de Léo Ferré. Donc c'est vraiment, il y a parfois, alors je l'ai écrit d'ailleurs sur le livre d'or de cette exposition, qui était au demeurant intéressante, mais vraiment je trouvais ça incroyable.
Quels sont les poètes donc qui l'ont le plus influencé?
Alors, il y en a plusieurs, hein. Il leur rend hommage. Et Baudelaire, c'est le poète dont il se sent le plus frère, et ça il le dit, c'est celui qu'il a le plus mis en musique, 56 textes, ce qui est quand même énorme. Et quand il est décédé, donc, il travaillait sur des musiques encore de Baudelaire, mais ensuite, il dit que c'est vraiment Apollinaire qui a inventé la poésie moderne, qui a mis la poésie dans le XXe siècle, et il va effectivement reprendre pas mal des éléments, des jeux de mots d'Apollinaire, par exemple, il va vraiment s'en inspirer beaucoup, tout en le rendant hommage, hein. Quand il fait des clins d'œil à tel ou tel poète, c'est toujours, il leur rend véritablement hommage, hein. C'est pas du plagiat, il est parfois d'ailleurs dans ses textes. Donc ces deux-là sont ceux qui lui ont apporté le plus, mais il a eu évidemment beaucoup d'émotions par rapport à Verlaine, qu'il trouvait très sensible, par rapport à Rimbaud, qui était quand même un voyant extraordinaire. Et il a partagé avec tous ces poètes beaucoup de thèmes, en fait. Et ça, c'est assez amusant de voir aussi, par exemple, le bateau ivre de Rimbaud et de voir le bateau espagnol de Léo Ferré. Il y a toute une continuité et il y a aussi un texte sur le bateau d'Apollinaire. Et on peut voir cette espèce de filiation et cette admiration que tous ces poètes avaient entre eux. D'ailleurs, ils se sont souvent renvoyés la balle. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans mon essai, il y a une partie qui examine ça et c'est intitulé « Les uns par les autres ». Et Léo, il a donc fait un peu le lien par la musique. Et Léo se voulait vraiment passeur de la poésie et de la musique, faire connaître ça aux gens. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'il a toujours fait humblement, comme il disait, je mets humblement les poètes en musique.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons.
Il a un côté aussi proche des gens les plus désespérés.
Oui, il a toujours beaucoup été très touché par les gens modestes, les gens humbles, les gens la misère. Hein. Et donc il parle de la misère des poètes et des artistes, beaucoup bien sûr, mais il parle aussi de la misère des gens en absolu. Dans Madame la Misère, par exemple, dans Psaume 151, très souvent il est ému par la solitude de ces gens, les cheveux élagués qui cherchent des caresses, le remords amical du prêtre qui confesse, les yeux des tout-petits ribulants de tendresse. Bon, ça, c'est dans un texte qui s'appelle « À toi », et qui est en principe une chanson d'amour, mais en fait, il va y mettre tout, la dentelle flottante au nez de la misère, le loup blessé à mort qu'on regarde se taire, le chant du coq et le silence de Saint-Pierre. Enfin, tout ce qui pouvait le toucher dans sa sensibilité, qui était grande. Il en parle de façon comme ça, par des télescopages d'idées. C'est pour ça que c'est souvent difficile un petit peu de suivre certaines chansons de Léo. Mmh. Mais en même temps, c'est extraordinaire. C'est un foisonnement lyrique, c'est baroque et c'est très riche.
Et l'anarchie alors, c'était quand même assez présent chez lui ?
Oui, tout à fait. L'anarchie, il disait de cela que c'était un état d'âme, que c'était ce qui reste de libre dans l'homme. C'est l'avoine du poète, disait-il, l'avoine. Ça, c'est amusant aussi parce que le bestiaire est important dans son œuvre et le cheval est toujours lié à la folie, au vieillissement et à la mort. Et là, parlant des poètes, il dit l'avoine du poète en parlant de l'anarchie. Donc, il avait découvert ce mot quand il était petit, 11 ans par là. Il avait vu que l'anarchie, c'était l'abolition de tous les pouvoirs. Et il avait trouvé que c'était vraiment bien. Et donc, après, eh bien, il va effectivement être toujours très fidèle au mouvement anarchiste. D'ailleurs, il ne faisait pas partie d'un groupe anarchiste. Il se rattachait à ce qu'on a appelé l'anarchie individualiste, qui est représentée par Stirner. C'est un courant assez peu connu. C'est pas du tout un courant... Et dans, beaucoup d'anarchistes ne sont pas des gens qui revendiquent la violence. C'est dommage qu'après, on a souvent parlé d'anarchie avec simplement l'idée de terrorisme. Il y a eu très peu, finalement, de courants anarchistes terroristes. Il y en a eu, mais très peu. Et c'est dommage que ce soit souvent un repoussoir, parce que c'est vraiment une façon d'essayer de repenser la société et d'abolir l'oppression sous toutes ses formes. Et Léo a chanté dès 1945 dans le cadre des galas libertaires, et jusqu'à la fin de sa vie, il va chanter soit pour les fédérations anarchistes, soit pour d'autres mouvements qui n'étaient pas forcément ses mouvements, mais auxquels il prêtait très volontiers sa voix. Et 9 mois avant de mourir, il était à la fête de l'UMA avec Bernard Lavilliers. Ils ont chanté « Est-ce ainsi que les hommes vivent » d'Aragon et les anarchistes, donc à la fête de l'UMA. Et ça se passait sous les vivas de la foule.
Il y a cru jusqu'à la fin ? Cette idée d'anarchie ?
Ah, lui, il pense que c'est la seule manière de cohabiter, hein, l'anarchie. C'est une liberté pour lui. Bon, en même temps, il avait beaucoup d'humour, hein, parce que c'est difficile de rendre compte de Léo Ferré. C'est tellement, il y a tellement de choses, d'ailleurs, de l'humour, on le voit dans les textes, hein, mais dans les interviews aussi. Et il disait des fois dans des interviews, entre autres avec Brel et Brassens, puisque Brassens était aussi un anarchiste. De temps en temps, dans ce genre de conversation, il disait un anarchiste, ça va, deux, ça va, mais trois, après, ça peut se gâter, quoi. Puis de temps en temps, dans les coulisses aussi, parce que c'était pas toujours facile après mai 68, des gens qui venaient lui poser questions politiques très pointues, ce qui correspondait pas. Il n'avait pas un engagement spécifique, il n'avait rien d'indoctrinaire, donc il était souvent embarrassé. Et alors, des fois, il disait l'anarchie, l'anarchie, elle a des limites, l'anarchie. Alors, il disait ça évidemment par boutade, parce qu'il y avait vraiment des gens qui venaient, qui posaient les pieds sur la table et qui quasiment poussaient Léo, quoi. Enfin bon, ça devenait un petit peu critique. Des fois, il disait, il y a des gens bien élevés, c'est bien. C'est bien ça. Il riait beaucoup. Dans la vie courante, vous me disiez tout à l'heure chez lui, mais dans la vie courante, c'était un méridional. Il était très à l'écoute de ce que je pouvais dire, et j'en balançais plein, hein, parce que des choses que je disais à 25 ans, que je ne dirais plus, j'oserais même plus lui dire maintenant, si c'était possible. Et vraiment, entre autres, j'étais féministe, donc j'en balançais pas mal, hein. Et lui-même avait beaucoup de culture, en réalité. Peut-être pas dans tous les domaines, mais enfin, au niveau musical, au niveau de la peinture, au niveau de la poésie, et au niveau de la pensée anarchiste, il était très, très... Il disait des choses tout à fait dans différentes direction. Donc il était très ouvert, il allait vraiment dans beaucoup de domaines.
Je t'ai rencontré par hasard, ici, ailleurs, ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé. Et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver, et tu croyais en ma bohème, mais si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps.
quand on regarde l'œuvre, et c'est quand même une œuvre qui compte hein, le plus, la femme, c'est vraiment c'est le talisman, c'est l'amour, c'est une manière de réagir au désespoir. Hein. Et il a vraiment fait de l'amour une religion, d'ailleurs avec du blasphème hein, au passage, hein, volontairement bien sûr. Il a retourné hein, les prières inversées, nous lancerons à la tête des gens des mots sans culotte. Il a vraiment rendu hommage à la femme dans ses textes, dans plein de textes, et au corps de la femme aussi. Et ça, c'était pas évident, hein, parce qu'il y avait justement une misogynie dans les chansons sur les femmes. Léo, lui, il avait une manière de chanter la femme de manière vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, Catherine Sauvage, qui a beaucoup chanté le texte de lui, l'avait vu, Juliette Gréco aussi. Un joli môme, c'est un peu surprenant. Quand on écoute bien le texte de Joli môme chanté par Gréco, c'est surprenant, quoi. Hein, parce que c'est quand même une chanson très érotique. Et bon. Et donc, il a vraiment. Puis des textes comme Cette blessure pour le sexe de la femme, non, il était vraiment très respectueux de la femme.
De qui se sentait-il le plus proche dans les chanteurs, dans les chanteuses de l'époque?
Je pense qu'il était très, très solitaire, hein, parce que bon, il était compositeur, enfin poète, musicien et interprète. Et heureusement pour lui, parce que sinon il aurait eu du mal à se faire connaître. Enfin ça, il en était bien sûr. Parce que justement, les interprètes lui prenaient, à part Catherine Sauvage qui a pris beaucoup de textes de lui, mais sinon globalement il prenait vraiment ses textes un peu au compte-goutte, parce que ses textes les effrayaient un peu, hein, soit par la qualité poétique, soit pour des questions d'engagement politique, donc c'était pas facile. Alors après, parmi les gens qui comme lui travaillaient comme lui, qui étaient aussi des compositeurs interprètes, il les rencontrait pas beaucoup. Cette rencontre, la fameuse photo Brel, Brassens, Ferré, ça a été exceptionnel, et ça s'est passé, ça a failli ne pas se passer, ça s'est passé dans une cuisine, toute petite cuisine dans un appartement, et celui qui a réussi à aller organiser ça et enregistrer, ça tient vraiment du miracle, quoi. Et par la suite, Léo aurait voulu faire des spectacles avec Brassens, il le propose dans l'interview avec Brassens et Brel, ils seraient intervenus chacun, enfin c'était son idée, ils venaient chacun, ils chantaient une chanson ou deux, ils repartaient en coulisses, etc. Et puis à la fin, ou à certains moments, ils chantaient des chansons ensemble, par exemple Le Temps des Cerises, etc. Et ça s'est jamais fait, et Léo, il dit, je sais pas pourquoi, je sais pas, ils ont pas voulu, qu'est-ce qui les dérangeait là-dedans. Enfin, en fait, il sait pas. Bon, il est vrai aussi que ces deux, enfin, Brel comme Brassens sont morts relativement vite après cette rencontre. Hein. Ils ont pas vécu très très longtemps au bout du compte. Donc c'est pas facile. Alors après, il admirait beaucoup, il avait une amitié très très tendre, très fraternelle avec Jean-Roger Cossimon. Et Jean-Roger Cossimon a parfois écrit des textes pour Léo, en pensant à Léo, et Léo était allé trouver Jean-Roger Cossimon un jour en lui disant « Monsieur, j'aimerais mettre de la musique sur votre chanson à la scène ». Et il avait demandé ça bien timidement. Et donc, il y a eu une amitié qui s'est créée entre eux, une amitié très pudique. Hein. Quand ils étaient ensemble, les échanges étaient très, très, très réservés. Enfin, c'était assez étonnant de les voir. Donc, il aimait bien ce que faisait Cossimon, mais Cossimon est resté toujours un peu dans la même tonalité. Enfin, il y a eu des chansons très fortes, hein, comme Monsieur William, comme Austin, Ne chantez pas la mort. Et voilà. Et le dernier disque d'ailleurs de Léo, je crois, si je ne fais pas d'erreur, c'est Les Copains, et c'est des chansons uniquement de Cossimon. Vraiment, il rend hommage à Cossimon à ce niveau-là. Mais il n'y avait pas la même recherche, ni au niveau musical, parce que Cossimon n'était pas un musicien, et ni au niveau de l'écriture. Puis dans la jeune génération, eh bien, bon, Bernard Lavilliers, j'ai rencontré à leur j'étais là lors de leur première rencontre, lors d'une tournée, et Lavilliers était en première partie, et je les ai vus donc ensemble, et Bernard, il chantait des chansons à Léo pour lui montrer ce qu'il faisait, et Léo le regardait, et il avait l'air tout à fait étonné par, et tout à fait admiratif de ce que faisait ce jeune gars, quoi. Mais bon, il y avait la différence d'âge du père à un fils, hein, parce que Lavilliers plus mon âge que celui de Léo, hein, donc en fait c'est une génération de décalage. Mais sinon, c'est actuellement, selon moi, c'est vraiment Lavilliers le chanteur, dans certains textes, pas toujours, mais dans des textes poétiques, c'est lui qui est le plus proche de Léo Ferré. C'est celui d'ailleurs qui lui rend très souvent hommage.
Hein. Et Higelin ?
Higelin, ils se sont rencontrés aussi. Hein, et Higelin avait des textes qui quelque part avaient des parentés effectivement avec Léo. Et puis il était musicien, hein, Higelin. Hein, et par exemple Champagne, c'est vrai que Champagne, qui passait à la radio, ce qui était aussi relativement étonnant parce que c'était une chanson longue. Or il y avait quand même le dictat de la pub hein, dans les radios ou des émissions qui faisait qu'on prenait des chansons de 3 minutes mais pas plus, et Champagne qui était une chanson un petit peu délirante à la façon de Léo Ferré, hein, poétique, etc. Effectivement il y a comme ça une filiation avec Higelin, c'est certain.
T'es toute nue sous ton pull, y a la rue qui est ma boule, joli moment. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en bon aux amis, joli môme. Dès qu'une fleur de printemps qui se fout de l'heure et du temps, dès qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. Dès qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil, dès qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme.
Et à l'époque, donc vous, c'était vraiment Léo Ferré? Vous vouliez vraiment faire quelque chose sur Léo Ferré ou vous aviez pensé à d'autres personnes?
Non, vraiment, c'était Léo Ferré. Quand j'ai eu fini ma licence, pour faire la maîtrise, on nous avait proposé des poètes. On nous disait, prenez un tel ou un tel. Et moi, j'avais dit non, si je fais une maîtrise sur un poète, ça serait un poète actuel, contemporain, et un poète qui attrape la société à bras-le-corps, quoi, vraiment. J'avais vraiment c'était ce que je voulais, donc. Et c'était celui qui était le plus engagé, indéniablement. Engagé à tout niveau, je veux dire, dans la critique de la société aussi, hein, c'est ça qui est extraordinaire, parce que il dénonçait, enfin, outre les gens dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il dénonçait la publicité qui abrutit les masses, il dénonçait la télévision quand elle est débile, il dénonçait plein de choses qui sont arrivées, et il les dénoncé, alors que c'était pas aussi dramatique que maintenant. Il disait aussi cette phrase dans À toi, par exemple, il dit des équations qui vont nous tomber sur la gueule, donc il pense à Einstein, il pense à la bombe atomique, et c'est terriblement d'actualité quand même. Hein. Et le capital qui joue au dé notre royaume, là aussi, hein, l'argent roi, enfin, et puis dénoncer le travail en usine, les ouvriers qui laissent leurs poumons, tous ces combats-là, toute cette désagrégation de cette société, il l'a dénoncé de manière extrêmement virulente, et extrêmement comme un voyant, enfin, comme il nous annonçait ce qui allait arriver, quoi.
Mmh, t'es un peu un visionnaire.
C'est le mot que je cherchais. J'en cherchais aussi un autre, mais il m'est pas venu. Donc, dans ces cas-là, j'ai lu, hein, je fais comme lui. Hein. Il disait quand il pouvait pas chanter, parce que c'est difficile de chanter ses chansons. Il disait quand c'est trop difficile à chanter, même ses propres chansons, hein, il disait je parle à ce moment-là.
Mais 68, oui, c'était l'époque un peu des revendications. C'est à peu près à cette période que vous l'avez connu.
Alors, c'est là que moi je l'ai vu donc sur la scène la première fois. Pas rencontré personnellement, et je connaissais encore très mal son œuvre, hein, et puisque je vais après faire cette maîtrise en 72, donc je vais vraiment m'approprier son œuvre, disons de 68 à 72, parce que donc il y avait cette censure qui s'exerçait. Donc son œuvre, moi je la connaissais très très peu. Par contre, en mai 68, il y avait sur les murs de Paris des vers de Léo Ferré, mais je savais pas que c'était Léo Ferré parfois, mais par contre, il y avait des affiches qui reprenaient des vers de Léo Ferré. Pays de cartes, les conneries sont en cartes, par exemple, des choses comme ça. Il y avait pas mal de choses. Mais il s'est trouvé qu'il y a eu une rencontre extraordinaire entre le mouvement de 68 et tout ce qui va suivre, surtout, et Léo Ferré. Mais Léo avait été précurseur de cela bien avant, en réalité. Parce que lui, beaucoup de textes, on pense qu'il les a écrits après 68. Il en a écrit 3-4 pour mai 68, mais la plupart qui était complètement dans la mouvance et la sensibilité de mai 68, était bien antérieur à mai 60. Donc là aussi, il était peut-être pas le seul poète à être comme cela, parce que ça, il y a d'autres mouvements qui étaient très violents en matière de poésie, les surréalistes entre autres. Et mai 68, on dit toujours mai 68, mais c'est pas tant là que la société a changé, c'est dans les années qui ont suivi. Par exemple, la libération de la femme, tous les mouvements de libération, la contraception, libération aussi des mœurs, c'est pas 68, c'est plutôt 71, 72, 73. Ça découle de 68, parce que 68 c'est une formidable insurrection et qui malheureusement échoue, puisqu'il y a la grève générale n'a pas vraiment duré. Il y a eu un moment assez extraordinaire et riche d'idées. Léo, il dit d'ailleurs la France, enfin qui s'est levée avec l'intelligence quand il parle de mai 68, les enfants comme des hiboux ensoleillés, comme les enfants de 68, et il leur rend hommage au niveau de l'intelligence de ce mouvement, de la radicalité. Après, c'est tous les mouvements que ça va créer, quoi, qui vont découler de ça, et le changement des mentalités dans la société, y compris parmi les gens qui refusaient mai 68, parce que c'était quand même une minorité, je veux dire, c'est comme les indignés de nos jours, ou comme les printemps arabes, etc. Tout ça, c'était quand même des minorités, mais des minorités qui s'exprimaient sacrément bien. Quand on écoute Cohn-Bendit jeune, c'est assez hallucinant, la maîtrise qu'il avait, et plein d'autres, du langage, des concepts, et tout ça. Et quand on les regarde, c'est des enfants, quoi. Ils ont des visages d'adolescents, quasiment. Ça fait un peu bizarre de revoir, enfin c'est bien de revoir ces choses-là, mais c'est tout à fait étonnant, quoi. Il y a eu un grand moment, là, très porteur, très émouvant, voilà. Mais il ne faut pas non plus que les gens qui l'ont pas vécu en soient nostalgiques. Il faut qu'ils vivent des choses similaires maintenant, quoi. Voilà. Il y a plein de possibilités.
Comment vous voyez la société aujourd'hui, vous qui avez connu cette époque ?
Je trouvais déjà qu'elle était terrible en ce temps-là, mais évidemment, ça continue terriblement. Il n'y a pas beaucoup de changements, il y a toujours des répétitions, des retours arrière, et puis l'impression que les gens ne se souviennent pas, ils n'ont pas de mémoire. Léo, là aussi, dit « j'ai la mémoire hémiplégique », mais on a vraiment l'impression que l'expérience des uns ne sert jamais aux autres, parce qu'à chaque fois, on efface, ça s'efface. Alors les gens ont l'impression de redécouvrir des injustices ou de découvrir telle ou telle chose, le chômage. Par exemple, des choses, j'entends souvent dire actuellement, les jeunes, c'est pas drôle pour eux, il y a le chômage, il y a le sida, j'entends des choses comme ça. En 74, moi j'ai une licence, Bac plus 5, je cherche du travail, je trouve pas de travail. En 74, c'est le premier choc pétrolier, on trouve pas de travail, les jeunes déjà n'en trouvaient pas. Alors ça commence à se casser la figure. Et ça, les gens, ils s'en souviennent pas. Et moi, je m'en souviens parce que je cherchais du boulot, et j'étais pas la seule à ne pas trouver du travail. Bon, alors le sida, sûr, c'est terrible, mais à l'époque, il y avait pas le sida, mais il y avait d'autres maladies sexuellement transmissibles. Et puis il y avait de toute façon une censure très grande, une liberté des mœurs qui n'existait pas, parce qu'il y avait pas la pilule, il y avait pas la contraception, il y avait pas, etc. Et puis cette idée terrible que, au moins à cette époque-là, disons en 68 et dans cette période-là, on pensait que les choses allaient aller de mieux en mieux, on y croyait, et puis évidemment il y a un formidable retour de bâton, un retour arrière à tout niveau. Et ça, on ne pouvait pas imaginer que des acquis sociaux seraient détruits ou des choses comme ça. Donc quelque part, il y avait quand même un espoir et des luttes qui n'avaient pas encore tout échoué, même si beaucoup d'expériences se sont révélées négatives dans plein de pays, mais il y avait encore de l'espoir, et là maintenant il faut se trouver des nouvelles zones d'espoir, une nouvelle manière de penser, assurément. Il y a des prémices, on sent des choses quand même là qui sont latentes. Ça peut-être tout prendre à un moment donné et se retourner très vite. Et c'est possible aussi, parce que l'histoire est faite quand même de choses comme ça, de moments de réaction et de progrès, au moins dans la tête des gens. Mais là, c'est urgentissime, étant donné les menaces qui pèsent sur la planète. Ça, c'est terrible. Et puis, quand on voit la misère à l'échelle planétaire, et ça, c'est à la fois la force de notre époque, c'est qu'on sent bien que la planète, c'est un tout et qu'on est quelque part tous solidaires de ce qui va se passer. Mais en même temps, on est impuissant quand on voit des massacres, des famines organisées. C'est terrible, quoi. C'était pas tout à fait ça à l'époque. Il y avait quand même un peu plus d'espoir. Mais là, il faut retrouver l'espoir. Hein. Léo dit que de ses textes, il dit que c'est un manifeste du désespoir. Il dit que pour les hommes libres qui demeurent ses frères, il faut que ça constitue un manifeste de l'espoir. Et Léo, il dit « Je vis multiple, je vis demain. Demain, c'est toi. Et lève-toi et bouge et fais quelque chose. » Et ça a été son discours tout le temps, hein, Léo. Et ça n'a pas changé toute sa vie. Donc maintenant, il faut reprendre le flambeau. Et pour ma part, la façon de faire aussi connaître et vivre encore l'œuvre de Léo, c'est de montrer combien elle est actuelle et qu'il faut continuer à s'indigner. Enfin, s'indigner, là, c'est vraiment... Mais à se mettre en colère et puis à se lever, à réagir, à refuser de vivre par terre, hein, à vivre accroupi. On prend des habitudes, comme il dit. Hein. 10 ans qui sont pliés, 10 ans de servitude, quand il parle des Français, à une époque. Et là, point de vue servitude, on est pas mal.
On sait que la poésie peut contribuer à sauver le monde.
Ben, la poésie, c'est une force. Hein, c'est une force. Les mots, c'est une force. Hein, les mots sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. C'est une force. Dans Le Chien, il dit les mots, la terreur que vous assumez, la virginité que nous assumons. Les mots sont des armes. Et c'est vrai qu'on peut tuer avec des mots, mais on peut sauver aussi avec des mots. On peut faire bouger les choses. Alors pas forcément la poésie, mais la force des mots, oui, moi je pense à la force des mots. Quand on peut parler et dire les choses, c'est toujours mieux que de prendre une arme et de tirer sur le voisin. Hein. Mais il faut vraiment utiliser un vrai vocabulaire et des mots repensés, hein, pas une langue de bois, et reprendre les mots surtout, et se méfier des clichés. On est dans une société de clichés, mais il faut vraiment faire attention, parce que là on est en train de détruire le langage. Et si on veut que le langage puisse agir, il faut lui redonner sa virginité au langage. Il faut qu'il retrouve sa force, la force qu'il avait par le passé et qu'il a encore. Parce qu'il y a quand même des fois des textes. Regardez le succès du livre Les Indignés, par exemple, qui n'est pas non plus un brûlot, hein, incendiaire, et néanmoins, ça fait bouger les gens. Donc il faut redonner la place aux mots. Il y a une force dans les mots. Les mots, ça traduit une pensée. Il faut une pensée derrière les mots. Hein, si c'est de la langue de bois, c'est pas la peine. Hein, et c'est vrai que, par exemple, Léo, la poésie telle qu'il l'utilise, avec ce qu'il y a des fois de dérangeant et de compliqué, d'ailleurs, dans sa poésie, eh bien, ça fait réfléchir. Et Léo, il disait, et qu'on dise de moi, mon Dieu, qu'il était con. Je sais plus dans quelle chanson c'est, ça. Être tranquille, ou dans Ma vie est un slalom aussi, il dit, quelle horreur de m'entendre, quelle horreur de gueuler, quand pourrais-je m'étendre sur une marge nette et regarder passer le texte à la lunette. Être l'indifférent sur le monde accroupi. Et en même temps, il dit ça quand il est un peu déprimé, puis en même temps, il repart à chaque fois avec les mots, quoi, qu'il brandit comme des armes.
Vous avez évoqué tout à l'heure un peu le mouvement surréaliste. Je pensais à quelqu'un comme Breton, qui s'est senti proche de Léo Ferré à un moment donné, et qui pourtant a refusé d'écrire une préface pour un livre parce qu'il ne le suivait pas forcément complètement.
Alors ça, c'est effectivement pour le livre « Poète vos papiers », hein, qui réunissait donc les poèmes de Léo. Ça, c'est quelque chose, Léo, il en a parlé parfois, et qu'il comprend pas très très bien, parce que Breton était allé chez lui, là il était en Normandie à ce moment-là, Léo lui donne le livre, et donc Breton devait écrire la préface. Le lendemain matin, au réveil, Breton lui dit « Léo, sous aucun prétexte, ne publiez pas ce livre, etc. » C'était bizarre, Léo a pas demandé pourquoi, mais il comprenait pas pourquoi. Et du coup, Léo, il s'est préfacé tout seul, et il a une préface à Poète vos papiers, qui est une préface très virulente. Et après, il dit qu'en fait, ils ont jamais, ils se sont croisés, entre autres, à l'enterrement de Benjamin Perret, qui était surréaliste aussi, et ils se sont pas parlé, mais Léo avait le sentiment qu'ils auraient bien aimé l'un et l'autre, en fait, que l'autre fasse le premier pas, se parler. Bon, Léo était, lui, timide, hein, je ne sais pas André Breton, parce que je n'ai jamais rencontré André Breton, mais il y a eu apparemment quand même quelque chose de surprenant dans cette histoire-là. Depuis, j'ai rencontré dans un salon du livre, parce que je fais beaucoup de salons du livre, et dans le Lot en particulier, je ne sais pas si c'était dans le Lot que j'ai rencontré une dame, qui était une étrangère, qui parlait bien français, et qui m'a posé des questions sur Breton et sur Léo Ferré, et elle m'a dit que Breton aurait dit ça par rapport à quelque chose d'ésotérique. quelque chose. Alors, parce que Breton était très très versé dans l'ésotérisme, dans les nombres, dans les signes astraux, etc. Et il y aurait eu quelque chose de cet ordre-là, donc qui serait pas lié véritablement au texte. Alors bon, moi, là, je ne sais pas, parce que cette femme qui voulait écrire là-dessus, d'ailleurs, m'en a pas dit plus. Il faudrait vraiment avoir des spécialistes d'André Breton pour éclairer ça. Parce que c'est vrai que c'est quand même très bizarre, quoi. C'est bizarre. Et à côté de ça, bon, certains textes pouvaient le gêner, hein, bien évidemment. Mais bon, il aurait pu parler que d'autres textes. C'est toujours manière de faire des préfaces, hein. On peut toujours s'en tirer par une pirouette. Donc c'est vraiment très, très surprenant, cette histoire. Mais en tout cas, ça avait meurtri, évidemment, Léo, quoi. Bien évidemment. Par contre, il a été très content que Bachelard, qui était un philosophe, qui avait écrit des livres admirables sur le feu, l'eau, etc., lui envoie un texte pour le féliciter pour le livre « Poète vos papiers ». Et ça, ce texte figure dans « Testament phonographique ». Il en était très très fier, parce qu'il disait que c'était un bon philosophe, et en plus, le philosophe qui disait que le plus important était de pouvoir bien allumer son feu le matin.
Pour en revenir à vous, à un livre « Vienne le temps » que vous avez écrit.
Oui, alors donc c'est un livre qui est sorti il y a un an et demi maintenant, aux éditions La Mémoire et la Mer, dont s'occupe Mathieu Ferré, le fils de Léo, qui donc a créé cette maison d'édition pour faire connaître et vivre encore l'œuvre de son père, aussi bien les CD, les livres de son père et les gens qui écrivent sur Léo. Il y a donc peu de temps, un an et demi, que Mathieu et Marie Ferré, donc la troisième femme de Léo, m'a demandé à reprendre en éducorant un petit peu ma maîtrise sur Léo, sur son approche thématique, de façon à pouvoir l'éditer dans cette petite collection, qui est une petite collection jolie avec des gravures, hein, qui s'appelle l'Étoile, collection Étoile. Et dans la deuxième partie, c'est donc sur les poètes qu'il a mis en musique, Verlaine, Rimbaud, enfin les principaux poètes, hein, parce qu'il y en avait d'autres, mais donc de Baudelaire à Aragon. Et ça, c'est Léo Ferré qui m'avait demandé d'écrire sur ces poètes. Et ça faisait partie d'un coffret de prestige où il y avait tous les disques des poètes. Et ce coffret a été réédité en CD, bien évidemment. Et les CD, il n'y avait pas autant de textes. Donc ce texte-là a disparu. Marie Ferré et Mathieu pensaient que ce serait bien de le mettre à la suite. C'est donc ce qui est arrivé.
Avant de se quitter, si vous aviez quelque chose à lui dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez à Léo ?
Reviens, ils sont devenus fous. Fou ou mou, ça va pas du tout, reviens. Non, mais c'est vrai que là, j'ai replongé complètement dans son œuvre à cause de ce livre, en fait, parce que je pensais que moi, j'avais écrit mes propres livres, romans, j'en ai écrit pas mal, nouvelles et compagnie. Donc je pensais que c'était, disons, ma jeunesse. Et par le biais de ce livre et les conférences qu'on me demande pour promouvoir ce livre, eh bien, en fait, je replonge complètement dans l'œuvre de Léo Ferré. Et je me dis que, un, je m'étais pas beaucoup trompée dans certaines intuitions que j'avais eues, parce que son œuvre était quand même encore en devenir, hein, quand j'avais écrit ça. Mais bon, pour des raisons d'ailleurs qu'on peut expliquer, mais je me suis pas tellement trompée. Et puis je découvre aussi des choses qui m'amusent. Et puis de temps en temps, je me dis, mais c'est vraiment extraordinaire ce qu'il a écrit. Donc je replonge complètement dans cette œuvre. Donc c'est un peu une manière de reboucler mon existence, je sais pas. C'est un peu bizarre. Je pensais pas que ça arriverait il y a 10 ans, ça, hein, cette espèce de retour. Et je plonge avec beaucoup de plaisir dans son œuvre et beaucoup d'admiration.
Vous découvrez encore aujourd'hui des choses qui vous avaient échappé à l'époque, peut-être ?
Oui, parce que selon les âges, on ne l'apprécie pas de la même manière. Mais par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, moi, c'est vrai qu'à 25 ans, ce qui me plaisait chez lui, c'était sa violence, finalement, son désespoir qui correspondait bien au mien. Mais le trouver chez quelqu'un qui avait l'âge de mon père, hein, c'est vraiment la même année que mon père, ils sont nés la même année, je trouvais ça extraordinaire. Et je voyais le désespoir chez Léo Ferré. Alors que maintenant, je vois, et d'autres critiques en ont parlé, hein, c'est peut-être aussi grâce à eux que je m'aperçois qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'espoir aussi dans l'œuvre de Léo Ferré, beaucoup de plaisir, hein, dans les mots, beaucoup d'humour. Si on prend l'ensemble de son œuvre, quoi, hein, parce que bien sûr on peut prendre ce qu'il y a de plus noir, hein, on peut trouver des choses très noires, mais on peut tout à fait. Et ce que je trouve extraordinaire, et c'est ce que je fais ressortir dans mes conférences, c'est qu'il ait pu mener en fait tout ça toujours parallèlement, Et non pas, très souvent, on a découvert Léo Ferré par petits bouts, progressivement, parce que les choses bougeaient. Par exemple, après 68, 70, on pouvait entendre des chansons de Léo qui étaient liées à, disons, des mouvements d'insurrection. Mais ces chansons étaient bien antérieures, ou des chansons érotiques qui, enfin, passaient sur les ondes parce que les choses avaient évolué. Mais elles étaient bien antérieures aussi. Mais de même que les poètes, ils les avaient déjà mis en musique en 51, alors que lui, il avait encore 33 tours, tout petit, quoi. Hein. Donc tout ça, et la chanson du Mal-aimé, qui date aussi de 53. Donc il a toujours brassé tout ça parallèlement. Donc aussi bien les chansons populaires, Paris Canaille, Paname, etc. Enfin populaires, faussement populaires d'ailleurs, parce que si on les écoute bien, elles sont très riches aussi. Et puis, à côté de ça, les poètes mis en musique, l'oratorio du Mal-aimé, les opéras qu'il a écrits, car il a écrit des opéras, tout ça vraiment parallèlement. Donc c'est vraiment une œuvre énorme et menée de front de façon vraiment magistrale. Et ça, je ne m'en rendais pas compte. D'ailleurs, il y a des choses qu'on ne connaissait pas du tout. Un opéra comme De Sac et de Corde, tel quel, on ne le connaît pas. Mmh. C'est Mathieu qui l'a édité, l'opéra du pauvre, des choses comme ça. C'est pas très connu. Hein. Bon, la chanson du Mal-aimé, je la connaissais, mais il a fallu 74, hein, l'opéra comique, pour qu'elle soit... et aussi après, le Palais des Congrès, où il l'a également présenté. Mmh. Donc c'était vraiment une œuvre... Voilà, et c'est toutes ces facettes-là là, qui m'étonnent pour le coup énormément.
En tout cas, ça aurait été une rencontre vraiment importante pour vous.
Oui, bah, c'est vrai que ça a déterminé beaucoup de choses dans mon existence. Alors après, est-ce que c'est bien ou pas ? Ça, c'est toujours difficile de... Par exemple, le fait que je sois écrivain est sûrement lié à cette rencontre avec son propre texte, avec le verbe de Léo Ferré. Et être écrivain, ben, ma foi, je suis comme Léo Ferré. Hein. Je connais la solitude des créateurs, leurs difficultés, le doute. Donc, des fois, je me dis que si j'avais jamais rencontré Léo Ferré, ma vie aurait peut-être été tout autre. Mais bon, ben, ça fait partie des choses qu'on ne sait pas. Et puis, non, je ne sais pas. Puis, maintenant, je me dis que si je le re-rencontrais maintenant, j'y poserais des questions. J'ai pas osé parfois lui poser des questions. Je l'écoutais, tout ça. Par exemple, j'ai pas osé faire des photos. Il y a plein de photos que j'aurais pu faire qui auraient été extraordinaires. Par exemple, au Maghreb, il y avait Aragon. On a croisé Aragon qui faisait une conférence. On était dans le même hôtel. J'aurais pu faire des photos. Mais j'avais un appareil photo, mais j'osais pas. Je n'étais pas photographe, donc j'osais pas. Donc... et j'aurais pu faire des photos comme ça de moments qui ont parfois été immortalisés par d'autres, mais parfois pas, parce qu'il n'y avait pas de personne pour faire la photo. Quoi. Donc c'est vrai que maintenant, j'aimerais bien lui poser peut-être certaines questions que je n'ai pas posées à l'époque. Et j'écoutais, hein, j'écoutais. Mm. Je lisais, j'écoutais.
Colette Brognard, merci beaucoup.
Je t'ai rencontré par hasard, ici, ailleurs, ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes, sans se connaître.
Cette entrevue se termine. C'était Colette Brognard qui nous parlait de Léo Ferré, de cette amitié qui est née entre eux au fil du temps, et de leur passion commune pour l'écriture. À propos de l'écriture, Léo disait « Écrire n'est rien. Oser le faire implique cette mémoire multipliée et mille fois anonyme, cette voix du dedans qui est la voix de mille autres voix. » Si vous voulez retrouver l'ouvrage de Colette Brognard sur l'univers poétique de Léo Ferré, Vienne le temps est disponible à la librairie Arbouge à la Bastide Murat. Par ailleurs, Colette animera également un atelier d'écriture les samedis matins de 9h30 à midi, les 12, 11, 19 et 26 à cette même librairie, la galerie Arbouge à la Bastide Murat.
La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. Un menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire qui consiste en poésie à n'employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigt et du baise-main. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Rutebeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique. Et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'à en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir? Avec nos avions qui dament le plomb au soleil. Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues. Avec nos âmes en rade au milieu des rues. Nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vers doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas